bonjour à tous, on est de retour sur la chaîne pour un nouveau CQFR. Chaï, plusieurs matchs au programme, on se rapproche de la fin de la saison régulière. Il y a des matchs importants, il y a des matchs qui comptent pour les places particulières, notamment la première place à l'Ouest. On avait un choc entre les Nuggets et les Timberwolves. Victoire de Denver, 116-107. Denver qui reprend la tête de la conférence Ouest, du coup avec un très bon Nikola Jokic, 41 points, 11 rebonds, 7 passes. Ça ressemble à la perf qui enterre la course pour le MVP. En tout cas, les Nuggets au moins en tout cas, se rapprochent de la première place à l'Ouest. 16-20 au tir, notamment pour Jokic, qui a complètement dominé son sujet.
Ouais, match absurde sur ton deuxième mi-temps. Il faut dire aussi, pour compléter cette performance, qu'il jouait contre l'une des meilleures défenses de la Ligue. Et Rudy Gobert l'a quand même défendu une bonne partie du match. Ça l'a pas empêché de... C'est comme ce qu'on dit avec les très grands joueurs, quoi. C'est-à-dire que peu importe qui tu leur mets dessus, il n'y a personne qui peut concrètement défendre sur eux. Anthony Edwards a dit après le match que selon lui, c'était Kat qui était le plus indiqué pour défendre sur Jokic. On va voir ce que ça donne s'il se retrouve à un moment en playoff. Alors, c'était pas un tacle pour Rudy, hein. De toute façon, je pense que il a gagné en estime aux yeux de Edwards tout au long de, enfin, depuis le début de leur collaboration. Mais bon, c'est un point de vue intéressant. Et là, sur un match comme ça, tu as raison, ça ressemble au statement de fin de saison. Déjà parce que tu fais passer Denver en première position, quelque chose que bah moi je pensais que ça arriverait peut-être un peu plus tôt, mais je le sentais quand même un peu venir. Et puis bah voilà, il a été phénoménal, hein. 16-20 avec ça, il te fait 7 passes aussi. Enfin voilà, dans un choc, je dis pas que ça, tu dois voilà qu'on doit lui donner le MVP juste pour ce match. Hein, mais dans la discussion, forcément, les votants aiment des performances marquantes et c'en est une assurément.
Ouais, surtout à ce stade de la saison. Chez les Timberwolves, j'ai regardé que je suis arrivé, c'était le début du quatrième quart-temps. Minnesota a toujours beaucoup de mal à créer du jeu dans ce genre de situation, qui sont typiquement des situations de play-off. En fait, les défenses qui se resserrent, le jeu qui se ralentit, on joue un peu plus sur demi-terrain. Et dans ces moments-là, alors les Timberwolves, ils mettent 27 points dans le quatrième quart-temps, mais en vérité, ils en mettent peut-être 15 ou 17 au moment où ça compte. Derrière, c'est juste dans le garbage time. Ils ont été étouffés. Il n'y a qu'un seul créateur vraiment de jeu, c'est Anthony Edwards.
Il a disparu, hein, là, on n'a pas vu du tout dans le quatrième.
C'est là où 4 manque. En fait, ils n'ont pas ce truc. Et moi, ça, c'est un facteur, je pense, inquiétant pour les Puffs. Ils ont une très bonne défense et ça va leur faire gagner. Ça leur fait gagner déjà des matchs cette saison et ça leur fera gagner des matchs en playoff. Mais il manque, ouais, cette capacité à créer des décalages sur demi-terrain, à créer de l'attaque sur demi-terrain. Il faut un Edwards phénoménal s'il n'y a pas 4 pour que Minnesota gagne 2 séries. Je ne suis pas sûr, même peut-être une série. Pour qu'il gagne une série, je pense qu'il faudrait déjà un Edwards phénoménal. Ça dépend de l'adversaire, évidemment. 4 va être important, on sait qu'il va revenir. Les Timberwolves, je ne me souviens plus le classement exact, mais c'est une des plus mauvaises équipes de la Ligue dans les situations clutch. Après, la vérité de la saison régulière et des playoffs sont parfois, bien sûr, c'est parfois deux réalités différentes. Mais il y a une lacune identifiée quand même en attaque sur ce genre de choses.
Oui, non, bah, c'est assez clairement. Bon, souvent dans la saison, vu leur bilan, c'est qu'ils n'ont pas toujours eu besoin de ces situations, d'être très bons dans ces situations-là, parce qu'ils avaient fait la différence avant. Mais oui, tu as raison, ce sera un point d'interrogation. Là, en plus, ils sont repassés troisième, même s'il reste 2 matchs. Donc ça donne quoi du coup à l'Ouest? Là, ça donnerait quoi virtuellement?
Non, je ne crois pas qu'ils soient troisième, je crois qu'ils sont deuxième.
Bah, OKC a gagné, ils ont le tiebreaker.
Je pense que c'est Minnesota qui l'a.
C'est un classement devant les yeux.
C'est Minnesota qui est deuxième, ouais.
D'accord.
C'est Minnesota qui est deuxième.
Okay.
Ils ont battu OKC 3 fois cette saison en 4
effectivement.
Matchs.
Effectivement, bon. Et du coup, la deuxième, ça donnerait... Alors, parce qu'il y a le play-in, donc on ne peut pas trop savoir maintenant, mais...
On ne peut pas savoir à l'heure actuelle contre qui ils joueraient, mais ils pourraient même gagner une... En fait, c'est pas tant, je ne dis pas qu'ils vont perdre au premier tour, les Timberwolves, juste, je pense qu'il y a une lacune offensive identifiée, notamment quand Kat n'est pas là, il y a un problème sur demi-terrain. Après, ils ont une très bonne défense pour compenser, ils ont plein de bons joueurs, ils ont des joueurs qui sont capables de mettre des shoots, Conley, Nickel Alexander Walker, Naz Reid, etc. Mais ça va être un point à surveiller en playoff. Il va falloir un Anthony Edwards d'un très très haut niveau, parce que c'est un peu le seul qui peut créer son tir, son propre tir.
Ouais. De toute façon, Kat va revenir là, il était plus ou moins apte déjà pour cette nuit, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu le lancer dans un match comme ça et qu'ils le gardent pour l'un des deux derniers matchs de saison régulière. Sa présence va être importante aussi, tu as raison, hein, pour la variété offensive, la taille, tout ce qui fait que Kat est un joueur intéressant. Et lui aussi, du coup, va devoir hausser le ton en playoff, comme on en parlait la dernière fois. Ça va être important pour les Wolves.
Ouais, du coup, je suis allé regarder leur bilan dans le clutch time. Donc, le clutch time, c'est moins de 5 minutes à jouer, moins de 5 points d'écart. Alors,
Ouais.
évidemment, les matchs de playoffs ne sont pas toujours serrés, mais généralement, dans ces situations-là, ça se resserre un peu, le jeu il se ralentit, ça se tend, etc. Minnesota a quand même un bilan positif. Il y a 35 matchs comme ça cette saison, ils ont gagné 20. Mais 20-15, ce n'est pas le même bilan que celui qu'ils ont là aujourd'hui, c'est 55-25. Et surtout, le net rating dans ces moments-là, 104 points marqués, 118 encaissés. Donc, beaucoup de mal à mettre des points. Ils en prennent quand même un paquet. Moins 14 sur l'équivalent de la ligue en net rating, c'est il n'y a que Détroit et Washington qui font pire. Voilà,
Ah oui, quand même.
ça c'est pour le clutch time de Minnesota cette saison.
Ok,
Voilà.
effectivement.
Après, la réalité de la saison régulière des playoffs, c'est parfois différent, mais je pense que c'est important à noter.
Bien sûr.
On peut parler justement, ça me fait une transition, parce que la troisième meilleure équipe dans le clutch time cette saison, c'est Dallas. Attends, première c'est Denver, est-ce que tu arriveras à deviner qui est deuxième? Bon, de toute façon, il faut dire un peu au pif, mais
Attends, dans le clutch time,
improbable.
c'est une équipe de... Juste, dis-moi si c'est à l'est ou à l'ouest.
C'est à l'est. C'est pas Boston qui est quatrième.
C'est pas Boston, alors je dirais Orlando.
C'est Chicago. Non, Orlando, pareil, je pense comme Minnesota, c'est une équipe qui a beaucoup de mal. Je vais regarder Orlando. Oh, j'ai regardé un peu le match contre Houston. Orlando est 15e. Orlando a beaucoup de mal à créer du jeu offensif. Mais non, c'est Chicago. Chicago, la
Ok.
deuxième meilleure équipe. Comme quoi, voilà, ça veut pas parce qu'on est fort dans le clutch time qu'on est forcément bon. Mais c'est vrai qu'avec un mec comme DeRozan, tu as des atouts sur demi-terrain. Bref, Dallas est la troisième meilleure équipe dans le clutch time. Dallas n'a même pas eu besoin du clutch time de toute façon pour battre Miami. 111-92, victoire des Mavericks. Les Mavericks qui valident leur 50e victoire de la saison. Il y a eu 29 points de Luka Doncic avec 9 rebonds, 9 passes, 25 points de Kyrie Irving. Sur les 20 derniers matchs, Dallas en a gagné 18. Et
Ouais.
sur les 20 derniers matchs, Dallas est la meilleure défense de la ligue. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand les Celtics en 2022, ils ont fait leur gros gros run sur la deuxième moitié de saison et ils sont allés jusqu'en finale.
Ça se tient. Ça se tient et la forme est exceptionnelle. La forme et surtout elle l'est au bon moment juste avant juste en fin de saison régulière. Il n'y a pas de gros pépin physique. Ouais, Dallas arrive et fait flipper. Tu parlais de la 50e victoire. Je sais pas si tu as vu que Kyrie a eu droit à un bonus grâce à cette
Ouais,
50e victoire. Il fallait qu'ils jouent. Alors, on n'avait pas tous les détails parce qu'ils avaient mis des.
des
Ah, pas.
bonus dans son
Bah, alors,
contrat,
il y
des
avait
clauses. Ouais.
bonus, clause, truc de protection. Voilà, on dit ce qu'on. Peu importe le terme, mais Kyrie avait signé ça dans son contrat. Il fallait qu'il joue au moins 50 matchs lors d'une saison où Dallas gagne au moins 50. Et donc, ça fait un petit chèque d'un million qui
Toujours
vient
ça, bon.
récompenser. Alors, les mesquins diront que c'est pour ça qu'il fait une saison sans problème en dehors du terrain ou voilà, mais c'est évidemment pas le cas. Kyrie fait une magnifique saison et Dallas fait une deuxième partie de saison assez incroyable depuis la trade deadline et là sur les 20 derniers matchs c'est assez fort et ouais, eux pour le coup ils arrivent en pleine balle.
Gafford, il est sur 22 paniers de suite. Tu sais, il avait fait sa série à 33. Là, ça fait 3 matchs de suite qu'il est à 100% au tir. Il a fait 6 sur 6. Quand Gafford est titulaire avec Doncic, c'est 18 matchs, 17 victoires. Ah, ça, c'est une autre petite
17,
stat.
17 matchs, 18 victoires.
Non, 18 matchs, 17 victoires.
Ah,
Bah,
18
je
matchs,
pense que
17
ça marche
victoires.
mal.
Ouais.
C'est compliqué, 17 matchs, 18 victoires. Mais bon. Mais ouais, et juste sur Miami. Miami qui est quasiment sûr, je ne sais pas si c'est mathématique, mais devoir passer par le play-in. On parle, je suis désolé, j'en remets une petite couche sur le hit. On est souvent en mode ouais, mais en mode playoff. Ça fait 2 matchs que Miami est censé être en mode playoff. Les 2 derniers matchs, c'est des matchs qui sont des matchs de playoff, entre guillemets, dans le sens où c'est pas tout à fait des matchs de playoff, mais dans le sens où c'est des matchs qui sont censés permettre à Miami de passer sixième. C'était contre Indiana et une équipe de Dallas qui sortait en back-to-back, alors Miami aussi avait joué de prolongation en plus, une équipe de Dallas qui est déjà qualifiée. Ça fait 2 matchs, le Heat perd en fait. Ils ont perdu contre les Pacers. C'est le mode playoff. Il y a Jimmy Butler, il y a Tyler Herro. Là, je comprends plus, tu vois. Et bah, Miami a perdu les deux. Et Miami est bien parti pour finir 8e à l'ouest, à l'est, pardon, devoir jouer un premier play-in. Alors, s'ils ont de la chance, entre guillemets, non, je ne veux pas dire que les Pacers soient forcément bien moins forts que les Sixers, mais s'ils ont de la chance, finir au passe devant et tu évites Joel Embiid sur un match de play-in. Mais c'est un potentiel match de play-in contre les Sixers qui ont 75 ou 76% de victoire avec Embiid cette saison. Et donc, si tu sors du play-in, il y a une possibilité que Miami finisse 8e et joue Boston dès le premier tour des playoffs. Voilà, je tenais juste à le souligner.
Le parcours du combattant. Mais ça va dans la lignée de. Enfin, ça fera pas évoluer les positions de gens qui pensent qu'ils vont. Qu'ils seront différents en playoff, dans le play-in,
Malgré
et
mon
voilà.
bourrage de crâne,
Non,
malgré.
c'est ça. Mais alors, mais par contre, tu pourrais encore plus fanfaronner si
Dans
ça
le
perd.
play-in, ils ont
Si ça
perdu contre
perd.
Atlanta l'an dernier.
Je sais, je sais. Si ça perd sur les deux matchs du play-in, s'ils perdent le premier et qu'ils sont éliminés après, là, tu pourras fanfaronner en disant, bah voilà, je vous l'avais dit. Et tes arguments auront été tout à fait
Ça
valables, hein.
sera même pas pour fanfaronner, ce sera juste pour vous casser les
Non, non, mais bien sûr, mais je dis pas du tout que je suis rassuré, hein. Je dis pas du tout que ce que fait Miami me rassure. Je dis juste que la théorie tient toujours, la théorie de
Et un
quand.
vrai problème en attaque, en fait, oui.
Non, non,
Enfin,
mais ça, la théorie tient toujours parce que voilà, quand on veut se persuader qu'en playoff ce sera différent, ils peuvent toujours te dire non, ça c'est pas encore les playoffs, il n'y a pas le vrai sentiment d'urgence qu'il devrait y avoir, hein, je suis d'accord avec toi, parce que c'est des matchs que eux devraient pouvoir jouer à fond, mais
non, mais
là
je
la
pense qu'ils l'ont,
vérité.
ils jouent à fond, ils sont juste limités, en fait.
Ouais, mais la
C'est
vérité.
juste qu'il y a pas, il y a pas le, c'est pas le même, il y a un écart, quoi. Bon.
La
Oh, bref, pardon.
vérité sera révélée dans quelques jours.
Non, je parle beaucoup sur Miami. De toute façon, tout le monde sera les premiers à me tomber dessus si Miami venait à faire un gros parcours. Mais voilà. Non, en plus, honnêtement, c'est même pas temps pour rentrer dans ce débat qui devient. Là, je fais un peu le
Oui,
mec.
c'est bon.
Non, mais je pique, mais au-delà de ça, c'est même pas pour ça. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude à avoir pour le Heat. Même oublions tout cet aspect. Ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, voilà, le truc dans la rédac, ça devient une petite blague, mais sincèrement, il y a une inquiétude sur la capacité du Heat en attaque, il y a des vrais problèmes du côté de Miami qui sont pas, qui jouent un. Le niveau de jeu, il y a de la qualité au Heat, mais on est loin d'une équipe qui est finaliste en titre et
Ouais, c'est clair.
qui peut jouer le titre. Honnêtement, on en est vraiment loin.
C'est clair.
Enfin bref. Allez, il y avait un autre joli choc, même s'il manquait Giannis, c'était celui entre Milwaukee et Orlando. Milwaukee qui a battu Orlando 117-99. Bah, je le disais, le Magic qui a des vrais problèmes en attaque. Quand Franz Wagner est pas là, il y a un vrai problème de scoring. Le Magic qui est maintenant quasiment sûr de ne pas pouvoir finir deuxième. Je crois que même c'est assuré. Orlando ne peut pas finir deuxième. Il n'y a que New York et encore Milwaukee, c'est vraiment à renforcer sa deuxième place et les Bucks devraient finir deuxième et donc on pourrait avoir soit un Milwaukee Miami soit un Milwaukee Philadelphie au premier tour. 29 points de Damian Lillard avec 9 passes, 30 points de Bobby Portis, ils ont porté l'équipe sans Giannis. Portis qui fait aussi 30 points, 9 rebonds, 5 interceptions, 14 sur 18 au tir.
Gros match de l'homme aux yeux écarquillés, super match de Portis. Je l'avais dit hier, hein, que le Magic, je sentais pas les derniers matchs. C'était que ça sent pas. Le finish est dur, en plus t'as pas Wagner, enfin c'était compliqué. Ça me surprend pas et c'est pas très grave, mais du coup, le Magic repasse cinquième, c'est ça? Parce que c'est
Et
toi
le
t'as le
Magic
classement.
peut encore finir dans le play-in.
Oh,
Le Magic est
ça ce serait
cinquième et le
cata.
Magic peut encore finir dans le play-in. J'ai pas les tie-breakers en tête, mais si Orlando perd ses deux matchs, que Indiana en gagne un et que Philly en gagne deux, sachant que Philly en a deux à jouer, dont un contre Orlando, au passage. Orlando, là, il reste deux matchs, c'est Milwaukee, Philadelphie. Orlando peut vraiment finir dans le play-in. Bah
Orlando
là.
rejoue Milwaukee là?
Peut-être le meilleur scénario pour Miami, du coup, Orlando rejoue Milwaukee. Après, les Bucks maintenant n'ont plus grand-chose à jouer. Les Bucks sont quasiment sûrs d'être en tête. Faudrait que je regarde. Les Bucks, il suffit qu'ils gagnent. Les Knicks ont trois matchs à jouer. Milwaukee en a deux. Si les Knicks gagnent trois, ils peuvent passer devant. Je ne sais pas qui a le tiebreaker entre Knicks Bucks. Je vais regarder ça tout de suite. Knicks Bucks this season. J'ai 2 secondes. Pardon, pardon. Alors, cette saison, c'est les Bucks qui ont le tie-break. Ils ont gagné 3 fois en 5 matchs. Il y a eu 5 matchs entre les Knicks et les Bucks cette saison. Donc, les Bucks ont le tie-breaker sur les Knicks. Donc, les Bucks peuvent se permettre, même ne serait-ce que de gagner 1 sur 2. Bon, bref, il y aura un match vraiment décisif pour Orlando, le prochain contre Milwaukee. Milwaukee qui aura un peu moins d'enjeux. Peut-être que ça peut aider Orlando.
Il y a eu 5 matchs, c'est quoi? C'est à cause du in-season tournament ou c'est quoi
Ça
là?
doit être à cause d'une in-season
Du coup, je
tournament,
sais pas
ouais.
si ça compte en. Enfin, bref.
Si, parce que c'est pas un match des finales.
Ok.
C'est pas un match des. Il n'y a que la finale qui n'a
Oui,
pas
c'est.
compté pour la
Ouais,
saison
c'est vrai.
régulière. Donc là, ouais. Là, le prochain match d'Orlando, que c'est contre Philly. Et il y en aura un dernier contre Milwaukee. Le dernier va être décisif. Orlando peut. Sachant que les deux prochains matchs de Miami, pour le coup, c'est contre Toronto. Les deux. Miami a deux matchs contre Toronto. Donc, et entre Orlando et Miami, je ne sais pas qui a le tiebreaker. Mais bref, il y a plein de calculs à faire à l'Est. Et effectivement,
Ça me plaît pas.
Orlando peut finir au play-in,
Ça
quoi.
me plaît pas cette fin de saison là, tout le travail gâché. Bon après Orlando a globalement été quatrième quoi, cette année troisième là, si tu prends la moyenne. Mais alors si tu sors carrément de la qualif directe, ça fait mal. Je pense pas que ce sera le cas quand même, mais bon.
Et Miami a l'avantage, a le tiebreaker sur Orlando.
Ouais. Puis bon là
Peut-être le meilleur scénario pour
ouais.
Miami, hein, c'est de jouer Orlando au play-in.
Et là, c'était des Bucks du coup sans Yanis qui jouera pas comme on l'avait pressenti les deux derniers matchs du coup de saison régulière. Ils vont le mettre au frais.
Ouais, voilà, Yanis qui a évité quand même la blessure grave, devoir se reposer, il a une blessure au mollet. Et Milwaukee, comme je disais, est quasiment assuré de finir deuxième. Je ne sais plus contre qui jouent les Knicks. Voilà, faut trois victoires des Knicks pour que Milwaukee finisse troisième. On continue avec la victoire de Cleveland, vu qu'on est toujours à l'Est. Cleveland a battu Memphis. Bon, voilà, pas forcément grand-chose à dire sur ce match, à part que les Cavaliers avaient besoin d'une victoire. 110-98, 29 points de Donovan Mitchell qui a relancé la machine avec 8 passes.
Ouais, c'est. Ils essaient de lui faire retrouver des sensations, je pense, avant le début des playoffs. Il y en a besoin parce que Mitchell a. Je disais, il a joué combien de matchs depuis. C'était son 10e match seulement depuis le 15 février. Donc en 2 mois,
Oui.
ça fait quand même pas beaucoup. Et on sait quand même qu'il est important et c'était pour cette équipe. Donc bon, là, il a sorti le match qu'il fallait. C'était un match où on pouvait se douter qu'ils allaient gagner. Et ils continuent de s'accrocher. Ils sont quatrième. Ils avaient, enfin, là, si tu prends les 17 derniers matchs, ils avaient perdu 11 fois quand même. Donc vraiment, les Cavs étaient en difficulté et il fallait gagner. Ils sont encore du coup en lice pour l'une des bonnes places à l'Est. C'est pareil, il n'y a pas énormément de certitudes, mais bon, voilà, au moins ils s'accrochent et nous garantissent un sprint final assez intéressant à l'Est. Ça reste l'équipe que je vois partout. Tout le monde dit bon, c'est l'équipe que les gens veulent affronter au premier tour. Ça a une bonne tête d'upset s'ils finissent top 4. Enfin voilà, c'est. Je pense qu'ils valent mieux que ça parce c'est une équipe qui a de la personnalité et tout, mais je sais pas trop à quoi m'en tenir avec eux pour l'instant.
Les Suns, dans l'autre conférence, les Suns ont battu les Clippers 124-108. C'était la revanche. Ils avaient perdu la veille, je crois. C'était déjà la veille, le match
Ouais,
d'avant.
le fameux
Là, cette
match avec le
fois-ci.
premier carton désastreux.
Ouais, cette fois-ci, ils se sont un peu repris. Alors, Bones Island leur a mis 37 points et les Clippers, jusqu'au début du quatrième carton, c'est Los Angeles qui était devant.
Et puis il n'y avait personne,
Finalement,
il n'y avait personne aux
il
Clippers.
n'y a ni
Ouais.
James Harden, ni Russell Westbrook, ni Kawhi Leonard, ni Paul George. C'est pour ça que Bones Island était en roue libre et il a mis ses 37 points. C'était vraiment le banc des Clippers. Je crois qu'il n'y a même pas Norm Powell de toute façon. Même pas Norm Powell, pas de Zubac. Tout le monde au repos et les Suns sont quand même bataillés. Il a fallu un run dans les 8 dernières minutes là où ils ont repris complètement le contrôle.
23-2.
37.
Il finit à
Ouais,
23-2.
c'est ça. 37 points de Booker, 26 points de Bill, 24 points de Durant.
Ouais, 80,3 pour les Suns, pour le Big 3 des Suns. Bon, bah, c'est pas pour comment dire nuancer à tout prix la performance des Suns, hein, mais forcément quand tu vois l'équipe en face, faut relativiser en tout cas. Et du coup, les Clippers, nos chers Clippers, c'est ça, ils sont sûrs de jouer contre Dallas.
Exactement.
Ouais,
On aura une série la
fameuse
troisième
série.
fois en 5 ans qu'il y aura un Clippers Mavericks. C'était à chaque fois au premier tour et à chaque fois les Clippers avaient gagné. Donc 2020, 2020 Los Angeles gagne 4 à 2. 2021, Los Angeles gagne 4 à 3. On va voir si justement le vent n'aurait pas tourné par hasard en 2024 parce que là, il reste plus qu'un seul joueur des Mavs de cette époque, c'est Luka
C'est
Doncic,
Luca.
évidemment. Mais là, il est mieux entouré qu'il ne l'a jamais été. Ça va être une très très belle série, je pense. Une des plus folles du premier tour avec un potentiel Milwaukee Philly, si jamais c'est Milwaukee Philly ou Milwaukee Miami, si
Et
ça venait à rester comme
du
ça.
coup, on sait juste pas, c'est pas encore entériné sur qui va recevoir ou pas, et c'est encore possible, c'est ça?
Exactement, Dallas peut encore passer devant. Alors, il faudrait que les Clippers perdent, je crois, les 2 matchs et que Dallas gagne les 2 qui restent. Et là, dans ce cas-là, Dallas aurait l'avantage du terrain. Je crois que c'est ça. C'est ça le micmac pour que Dallas ait l'avantage du terrain. Mais Dallas, en tout cas, oui, finit plus proche de la quatrième place ou finira plus proche de la quatrième place que de la sixième. Et j'en reviens à ce truc sur le MVP. Tu vois, je disais, ben, en fait, Dallas va être cinquième. Si Dallas finit cinquième, ça sera à une victoire près. Et tu vois, le fameux débat de ouais, ben, si Doncic sont dans le top 4, mais un match pour que ce soit le top 4, tu vois. Sachant que Dallas a un meilleur bilan que Milwaukee, par exemple. Aujourd'hui, si tu classes les équipes sans prendre en compte les conférences, Dallas a le sixième meilleur bilan de la ligue. Tu vois, ils ont plus de victoires que les Bucks. Autre match, c'est la large victoire du Thunder, qui est justement troisième à l'Ouest, pardon, 127 à 89 contre les Spurs. Il n'y avait pas Victor Wembanyama. Là, les Spurs, c'était de la roue libre totale. Sidy Sissoko en a profité pour s'illustrer. Il a mis 14 points. Mmh. Mais voilà, victoire facile du Thunder avec 26 points de chez Gildos Alexander en 26 minutes.
Pop a dit après le match, Victor doit pas beaucoup m'aimer en ce moment parce que je le ménage alors qu'il a envie de jouer tous les matchs et de tout casser. Mais on pense déjà à la saison prochaine et on essaye de ne pas le fatiguer ou de ne pas le casser sur la fin de saison. Donc ouais. Les Spurs sans Wembanyama, c'était un peu plus facile pour OKC forcément.
J'imagine qu'il restera au moins un match avec Wembanyama, peut-être le prochain contre Denver. Denver qui reposera peut-être ses cadres, on ne sait pas. Pour essayer au moins d'aller chercher une victoire, pour finir à 21 victoires et pas à 20, qui est, je le répète, le pire bilan de l'histoire des Spurs. Ouais. Enfin, égalité. Et il y avait deux autres matchs. Alors, il y a la victoire de Charlotte de justesse contre Atlanta. C'est le retour de Trae Young, quand même,
ouais,
qui a été bon. En 21 minutes, il a mis 14 points à 5 sur 5 au tir et il a distribué 11 passes d'ess. Plus 16 de différentiel, mais malgré ça, les Hawks ont perdu. Défaite des Hawks contre les Hornets avec un dernier game winner de Miles Bridges. Je te laisse la parole, pardon.
Non, j'allais juste de dire game winner de l'infâme Miles Bridges. C'est pas la première fois que. De toute façon, c'est un très bon joueur et c'est pas la première fois qu'il fait un game winner. Il a mis un au buzzer il y a pas si longtemps que ça, hein, je pense, avec Charlotte.
Ouais, il fait une belle saison, quoi.
3,8 secondes de la fin. Et Atlanta qui rate l'occasion. Le Chicago jouait pas, mais il y avait l'occasion de remettre la pression sur cette course. Ah oui, cette course qui peut paraître un peu anecdotique, la 9e, 10e place à l'Est. Mais pour ces deux équipes-là, ça signifie quelque chose quand même d'avoir l'avantage du terrain. Et puis de toute façon, depuis que Miami, au moins Miami a montré cet exemple-là, et les Warriors en parlaient d'ailleurs justement. C'est Clay Thompson qui disait pourquoi pas un parcours à la Miami en partant de la 10e ou 9e place. Réussir une campagne au long cours, et donc c'est logique qu'on s'intéresse aussi à ce que font Atlanta et Chicago, même si ça paraît, je sais, un peu anecdotique. Ces équipes, elles ont l'air tellement loin en termes de niveau de Boston par exemple, que c'est difficile de croire qu'elles vont vraiment réussir un gros run, mais c'est toujours possible mathématiquement avec le retour de Trae Young, et Chicago de l'autre côté avec le talent individuel. Mais voilà, bon, Atlanta a raté une occasion et il leur reste aussi deux matchs pour tenter le coup.
Il y a un très gros dunk de Brandon Miller qui a mis 27 points d'ailleurs ce match sur Bruno.
De toute façon, sa deuxième partie de saison, c'est régal, hein, rien à dire. Charlotte, ça peut être une équipe qui, c'est pas l'équipe la plus sexy de la ligue, mais surtout sans la Melo Ball. Mais Brandon Miller, on l'a dit, on le redit, fait vraiment. Moi, il m'a gagné, on va dire. C'est-à-dire que j'étais très très sceptique et je le trouve de plus en plus impressionnant.
Ah, ils ont un 5 potentiel avec Lamelo, Miller, Bridges, Grant Williams. Leur pivot, c'est, j'oublie toujours, Mark Williams.
Mark Williams, ouais.
Avec derrière sur le banc, Micić, Mann, Nick Richards, un autre pic au classé. Seth Curry éventuellement en vétéran de vestiaire. Il y a moyen vraiment l'an prochain d'aller chercher, de commencer à se rapprocher des 30 et quelques victoires. Quoi.
Ouais.
Et je me souviens d'une époque où, avant les blessures de Lamelo, cette équipe a été pas trop mal classée. Il y a moyen vraiment de progresser l'an prochain du côté de Charlotte.
Ça va dépendre, hein. Faudra voir le choix du coach du coup aussi, c'est important, voir si aussi, c'est un coach de reconstruction ou s'ils veulent tout de suite essayer de... Je dis pas que c'est une équipe de play-off, hein, attention, pas encore, mais t'as raison.
Eux, ils auraient besoin de Ludoka.
Eux,
ils auraient vraiment besoin d'un mec qui cadre leur groupe. Là.
Toutes les équipes jeunes en reconstruction, je pense que c'est aussi le coach parfait. J'avais des doutes là-dessus, hein, mais bon, là, on parle pas de Houston, ils ont pas joué, mais... J'avais peur vu qu'il jouait à Boston où c'était une machine bien huilée avec des joueurs expérimentés. Il a montré que le mix était possible et je suis d'accord, ça aurait été un coach avec ce profil là en tout cas, je pense qu'il devrait rechercher quelque chose comme ça, ouais.
Le dernier match de la nuit, c'était la victoire de Brooklyn contre Toronto, le choc des nuls. En fait, c'est même pas les plus nuls parce que c'est pas les équipes les moins bien classées, mais ouais, voilà, c'est ça, c'est nul parce que t'attends plus en fait. C'est pour ça que je suis plus dur avec les Raptors. Tu vois, à un moment, les Wizards, s'ils avaient gagné 30 matchs dans la saison, j'aurais été surpris, tu vois.
Ouais.
Là, Brooklyn et Toronto, j'attendrais un peu mieux quand même. Bon, bref, victoire des Nets 106 à 102. Les fans des Raptors, de toute façon, doivent me détester. 23 points de Cam Thomas, 21 points, 9 passes de Dennis Schroeder. Et puis, je rigole hein, au passage. Hein. Et bref, victoire de Brooklyn contre Toronto. Je ne sais pas si tu as un mot à dire sur ce match.
Absolument aucun mot. Cam Thomas, 23 points, voilà. Si vous avez suivi la Hit Session, élu haut la main, croqueur le plus cool. Croqueur le plus cool de la ligue.
De la ligue.
Dans nos trophées un peu décalés, voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Allez, il y a quelques infos qui étaient intéressantes cette nuit quand même. Alors, intéressantes, pas toutes intéressantes, mais des infos marquantes plutôt.
Ouais.
D'abord, il y a la prolongation de Jrue Holiday avec les Celtics. 135 millions sur 4 ans. Ça anticipe sa free agency. Il prend moins que ce qu'il touche actuellement. Mais au moins, il reste plus longtemps à Boston. Enfin, lui, il a un contrat plus long. Et c'est le signe que les Celtics sont prêts à garder leur... En tout cas, pour l'instant, à garder sous contrat tous leurs 5 joueurs majeurs et à tenter un run sur, je sais pas, sur 2-3 ans, quoi.
C'est quoi du coup le montant, le salaire annuel, enfin, parce que du coup...
Oh, tu me demandes de faire des maths.
Non, non.
Si tu fais 35 x 4, ça fait 140, donc il touche un peu moins de 35.
Ok, parce que du coup, lorsque le contrat se finit, il a 37 ans.
Bon, oui, par contre, oui, la fin du contrat risque de piquer un peu.
Ça. Bon, ça dépend, il faut voir comment il évolue aussi, mais ça reste... Ça reste un formidable défenseur et non non c'est un bon move. T'as raison, ça veut dire qu'ils veulent conserver le noyau qui est titre au bout ou juste finale. Ils seront en capacité de remettre ça dès la saison prochaine.
Ouais, Holiday, voilà, sa production elle a baissé, mais en même temps il joue avec des joueurs plus forts et par contre il a jamais été aussi adroit. Il est à 61% à 3 points dans les corners. Donc c'est ce que du jamais vu depuis 25 ans. Voilà,
ouais.
Donc voilà, Holiday est quand même très très précieux évidemment pour les Celtics. Autre info, pardon, c'est celle, ça nous vient de Minnesota, c'est concernant les Timberwolves. Ce qui se passe, c'est qu'il y aura un document on revient en arrière. Donc, un document auquel a eu accès Adrian Wojnarowski, qui a été distribué apparemment à Glenn Taylor, à la NBA, à un groupe d'investissement. Ce document, ce qu'il met en avant, c'est notamment les projections financières qu'avaient imaginées les nouveaux propriétaires des Timberwolves, donc Mark Lore et Alex Rodriguez. Et dans ces projections, ils se sont rendu compte qu'il y avait des énormes économies sur la masse salariale. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je te décris le topo, Minnesota est parti pour avoir la quatrième plus grosse masse salariale de la Ligue l'an prochain. Ils ont 3 joueurs au max. Donc normalement, ils sont censés payer 25 millions de taxes en estimé. Sauf que dans les projections financières, Minnesota était carrément sous le seuil de la luxury tax, donc les projections financières faites par Mark Lore et Alex Rodriguez. Et donc la seule chose qu'on peut en déduire, c'est qu'ils avaient prévu une grosse pay cut dans la masse salariale, et ça, c'est pas en transférant des joueurs mineurs, c'est pas en transférant les Mike Conley, les Jaden McDaniels, c'est qu'ils avaient envisagé forcément le trade d'une superstar, et on peut imaginer que c'est pas Edwards, donc ça aurait été Karl Anthony Towns ou Rudy Gobert. Ça, c'est ce qui était prévu. Alors, c'est juste des projections. Eux, ils n'ont pas commenté dessus. Il n'y a pas eu... Voilà, ça reste une rumeur, mais c'est un document qui est apparemment quand même vrai. Il a été... La Ligue l'a reçu aussi. Et donc, oui, il y avait Kat ou Rudy qui seraient transférés, alors que cette équipe fonctionne mieux qu'elle n'a jamais fonctionné au cours des 20 dernières années.
Ouais, mais il faudrait voir de quand date cette réflexion. Parce que nous-mêmes, l'année dernière, on se disait « Non, mais ça ne pourra pas marcher ». Il faut trader quelqu'un, peut-être 4 parce qu'il est plus jeune que Rudy, qu'il a peut-être encore une cote supérieure. Donc, si la réflexion elle vient de ce moment-là, si leur projection, parce qu'ils ont commencé à racheter la franchise petit à petit, ça date pas d'hier. Donc, s'ils se sont dit au même moment que tout le monde, je pense on va tabler sur le trade de l'un des deux, ça me choque pas. Si là, aujourd'hui, maintenant, en tout cas du point de vue des fans de Minnesota, oui, là, ce serait plus difficile parce que tu sors d'une saison où tu es plus compétitif que jamais. Et tu sais que tes proprios ont l'intention de ne pas payer la taxe et de se séparer d'un des gros joueurs. Ouais, là c'est plus contrariant, mais j'attendrai quand même de voir de quand date tout ça. Ça ressemble quand même à un move de Glenn Taylor ou de l'entourage pour dire regardez, voilà pourquoi j'ai cassé le processus pour les faire rentrer comme actionnaire majoritaire, parce que ils voulaient trader un des gros joueurs. Donc la fanbase et les autres investisseurs, soutenez-moi quoi. Et ça m'étonnerait pas qu'on reçoive que dans la foulée, s'il a vraiment besoin d'appuyer, il cherche à montrer que les deux voulaient faire déménager la franchise, alors que l'accord de base c'était de le laisser à Minneapolis, tu vois.
Mais ça, je serais pas surpris du tout que ça soit vraiment dans leurs intentions, parce que dans l'accord de base, ce que j'aimerais savoir, alors j'extrapole, hein, mais j'aimerais savoir pendant combien de temps ils doivent donner l'assurance, tu vois. Parce que tu peux pas dire éternel, tu peux pas signer, je pense pas que ça soit possible de dire, non, on va jamais déménager la franchise. Tu vois, il doit y avoir une certaine durée. J'imagine, hein, peut-être que je me trompe, mais du coup, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir sur combien de temps ils portent l'accord, parce que ce qu'on apprend aussi dans les sources, c'est que Minnesota, pas de surprise, il y a encore des petits marchés en NBA, pas dans les mesures petits marchés égale forcément petite équipe, mais petit marché égale, c'est plus dur de gagner de l'argent avec cette franchise. Et du coup, tu peux être moins tenté de mettre la main au portefeuille pour payer la luxury tax quand tu as une bonne équipe. On voit que ça avait l'air apparemment d'être le cas pour Hérode et Laure qui n'étaient pas prêts à payer la luxury tax, sachant qu'il y a peu de bénéfices à Minnesota. Est-ce qu'il y aurait eu une volonté d'aller ailleurs à un moment, tu vois,
Mais c'est logique, de toute façon. Enfin, au-delà, je ne parle même pas du déménagement, mais le côté pas vouloir payer la taxe, les deux, avec les investisseurs qui se sont joints à eux, c'est pas Steve Ballmer ou je sais quel proprio qui arrive, qui a un carnet de chèques. Ballmer, c'est un multimilliardaire. Donc il est arrivé, il a posé en cash l'argent, il n'y a pas eu multi-paiement, tu vois. Là, c'était progressif parce qu'ils ont du mal, ils ont même eu du mal à chaque fois à réunir les échéances. Et c'est normal, hein, heureusement, qu'il n'y a pas que des multimilliardaires, c'est logique. Donc c'est pas anormal qu'ils se disent, bah, si on peut faire 25 millions d'économies,
Ah bah oui.
c'est pas déconnant en soi, mais bon, c'est le timing, tout est une question de timing, et puis là on est dans. Je pense que les uns et les autres vont sortir les arguments. Peut-être que dans le camp, Laure et Rodriguez, ça va sortir des trucs sur voilà, on nous a mis ces bâtons-là dans les roues. Enfin voilà, c'est un peu. C'est de l'extra sportif, mais c'est intéressant parce que c'est voilà, c'est l'une des 30 franchises de la ligue. Aux États-Unis, ça fait beaucoup parler parce que en France, on s'en rend pas compte, mais Alex Rodriguez, c'est une superstar. C'est une superstar du sport aux États-Unis. Et bah, c'est logique que ça fasse parler. Et en plus, c'est une équipe qui marche bien avec des joueurs,
Ouais,
notamment un joueur excitant. Et c'est logique, les gens veulent savoir.
oui, et puis il y a un flou du coup autour de cette franchise qui fonctionne fort. Alors, c'est peut-être pas une distraction pour les joueurs aujourd'hui, mais
Non.
il y a forcément des incertitudes sur l'avenir, sur est-ce que ça va rester à Minnesota, qui sera le proprio, pour quelle décision on va prendre ce propriétaire là. Tu vois, les projections, tu te demandes de quand elles datent, tu as tout à fait raison. Ce que tu soulignes, c'est très juste. Si c'était, je sais pas, ne serait-ce que 18 mois en arrière, bah, pour nous aussi, ça avait du sens de
Bah oui.
transférer l'un des deux. Je pense qu'au plus tard, c'est le début de saison, tu vois, avant peut-être le coup d'envoi de la saison, mais pour faire des projections sur la saison de 2024-2025, tu as besoin qu'il y ait déjà les contrats signés, tu vois, de l'intersaison. Donc, quelque part, je pense qu'au plus tard, ça date du début de saison, mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de Minnesota. On verra ce que ça donne dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Dernière petite info, elle est beaucoup plus triste. Ça concerne Nate Robinson. Nate Robinson qui a annoncé qu'il avait plus longtemps à vivre si jamais il n'avait pas une grève de rein. En tout cas, s'il venait à arrêter la dialyse. Pour l'instant, il fait des dialyses rénales. Il souffre d'une insuffisance rénale. Voilà, il est obligé de suivre beaucoup de traitements. Et voilà, il est à la recherche d'un donneur. Ça fait 4 ans qu'il cherche. Il n'a toujours pas trouvé. Il a alerté un peu sur son état de santé qui est bah, alarmant, évidemment. Voilà, bref, triste nouvelle.
Situation compliquée, hein. De toute façon, là je suis même pas sûr que la notoriété ou l'argent, parce que tu vois, tu pourrais te dire, bah, s'il arrive à lever des fonds pour des soins et machin, mais là, si c'est juste si c'est une transplantation, ça se commande pas. Je suis pas sûr qu'il y ait des priorités. Je m'y connais pas là-dedans, hein, mais c'est ce qu'il avait l'air de dire sur le truc, et c'est pour ça qu'il disait que s'il trouvait pas, il lui resterait pas longtemps à vivre, malheureusement. C'est triste parce que c'est un joueur qu'on aimait bien. C'était pas une star de la ligue, mais sur la période
C'est
un
un joueur
peu,
très populaire.
voilà, très populaire, les concours de dunk avec Dwight Howard, le petit gimmick Kryptonite, enfin, c'est un super joueur. J'en parle pas au passé parce que moi j'ai bon espoir qu'il trouve un rein, enfin qu'il soit transplanté et que du coup il revienne un peu sur la scène. Mais bon, ces dernières années, là, depuis la fin de sa carrière, il était parti un peu à droite à gauche, il avait joué à l'étranger, le coup des combats de boxe qui n'ont pas été une grande réussite pour lui non plus. Donc bon, on lui souhaite plein de bonnes choses en espérant qu'effectivement il trouve un donneur prochainement.
Allez, je donne une toute dernière info. Jonte Porter, le frère de Michael Porter Jr., risque d'être banni à vie par la
Ah ouais.
NBA. Voilà.
Bah, ça veut dire qu'ils ont probablement suffisamment de preuves que les paris mis sur lui n'y étaient pas pour rien. Ouais.
Enfin, là, en gros, c'est s'il venait à être,
Ah ok.
si ça venait à se confirmer, il pourrait être banni à vie.
Oui,
J'ai
bah, ça doit
mal
être prévu.
formulé ma
Ça
phrase.
doit être prévu dans les codes, dans les règlements de la NBA. De toute façon, je pense que si t'as mouillé dans les paris,
C'est pour expliquer. Le fait que Adam Silver l'annonce lui-même qu'il serait banni à vie s'il venait à être, comment dire,
Ouais, s'il est coupable, quoi.
exactement, à être prouvé coupable, je pense c'est une manière de calmer tout le monde. Tu vois, de dire, regardez, lui on ne sait pas, mais soyez bien au courant que si vous faites les malins avec les paris, c'est banni à vie de la NBA. On va s'arrêter là-dessus. Ça faisait beaucoup d'infos, beaucoup de matchs. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR avec toujours des matchs couperets, hein, vu que là, on arrive dans la dernière ligne droite de la saison régulière.
Et n'hésitez pas à envoyer vos questions. Hein, on va enregistrer ça, on enregistrera ça demain. Alors, sans Théo, donc je pense pas qu'il y aura de quiz cette semaine. Mais envoyez-nous bien vos questions cqfr.rivers@gmail.com et on y répondra avec grand plaisir. C'est moi qui ferai le tri du coup cette fois.
Voilà. Yes, pour le 6e CQFR de la semaine, celui de samedi.
Absolument.
D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Bonne journée.